VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. La guerre contre Boko Haram tout d'abord. Au Nigeria, une foule a lynché puis brûlé hier à Bauchi dans le nord-est du pays. Une jeune femme soupçonnée de vouloir se faire exploser dans un marché. C'est ce qu'ont indiqué à l'AFP la police et des témoins. Il y a eu ces derniers jours une série d'attentats suicides attribués au groupe islamiste Boko Haram dans des gares routières et dans des marchés du nord-est et du centre du Nigeria. Et la jeune femme avait refusé de se laisser fouiller à l'entrée du marché en question. Pour parler intermalien à Alger, retour des délégations aux négociations en Algérie. L'accord de paix a été paraffé par le camp gouvernemental, mais pas par la rébellion qui a réclamé un délai. Pourtant, à Bamako, il y a une vive opposition au projet d'accord. Le point avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
C'est au cours d'une conférence de presse que le collectif des ressortissants du nord du Mali a donné son avis sur le projet d'accord d'Alger. Maître Malik Ibrahim, porte-parole du COREN.
Dans le document, il est écrit que l'Azawad est une réalité socio-culturelle, mémorielle, symbolique, partagée par une communauté du nord faisant partie de la nation du Mali. Il n'y a rien de plus faux que cette affirmation.
Face à la situation, le premier ministre malien a réuni la classe politique, opposition et majorité, la société civile, afin de donner la version du gouvernement malien. Modibo Keïta, premier ministre du Mali.
Mais je dois vous avouer qu'après avoir pris connaissance de cet accord, le gouvernement a noté que les préoccupations essentielles ont été sauvegardées dans ce projet d'acte. C'est dire qu'elles sont applicables à toutes les régions du Mali, pas seulement aux régions du Nord.
Et si tout va bien, c'est le 16 mars prochain que le projet d'accord sera signé au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La lutte contre l'Ebola, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria s'engagent à mettre fin à l'épidémie avant la fin du mois. Mais la tâche ne sera pas facile en Guinée, où certaines populations continuent à faire preuve de méfiance à l'égard des équipes combattant la maladie. C'est ce que nous dit notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
À quelques jours de l'objectif zéro Ebola en 60 jours, une vingtaine de cas confirmés sont traités dans les différents centres du pays. Les nouveaux foyers proches de Conakry constituent de nouveaux défis. Folita Cecilia est responsable du service communication de la Coordination nationale de lutte contre Ebola.
Aujourd'hui, notre ennemi, ce n'est pas l'épidémie d'Ebola, c'est l'épidémie de la réticence, je peux dire même de la rébellion de certaines populations. Sachant très bien la rapidité de contamination, les populations refusent catégoriquement et s'attaquent à nos équipes de prise en charge ou de sensibilisation.
La fièvre hémorragique à virus Ebola a tué plus de 1500 personnes en Guinée. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Au Sénégal, les professeurs de 5 universités sont en grève. Les étudiants de l'université de Dakar, dont les études ont été perturbées l'année dernière par des grèves à répétition, ainsi que leurs parents, n'apprécient pas du tout cet obstacle à l'acquisition de leurs diplômes. Au cœur de la dispute, la réforme de l'enseignement supérieur rejetée par les professeurs, qui est basée sur une proposition venant de la Banque mondiale. Des précisions avec Idrissa Ba, porte-parole du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, au micro de notre envoyé spécial à Dakar. Idriss Fall.
Il y a de cela quelques années, nous avons reçu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar des fonctionnaires de la Banque mondiale. Ils avaient procédé à un diagnostic qui constituait en quelque sorte à dire que les universités coûtent trop cher à l'État, qu'au fond nous n'avons pas besoin d'études aussi longues, que certaines filières sont inappropriées par rapport à notre économie et que par conséquent il fallait remettre tout cela en cause. Et que l'État, pour des raisons que nous ignorons, mais qui très certainement sont liées à la disponibilité des capitaux octroyés par la Banque mondiale, donc l'État est en train d'appliquer cette politique-là.
Idrissa Ba, porte-parole du syndicat autonome de l'enseignement supérieur à Dakar.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Tchad, l'ONG Droits de l'Homme sans frontières tire de nouveau la sonnette d'alarme concernant le phénomène d'enlèvement d'enfants contre rançon qui terrorise les populations de la région de Mayo-Kébi-Ouest. L'ONG déplore le manque d'action des autorités locales et nationales face à la situation. On écoute Dezombe Daniel Passalette, président de Droits de l'Homme sans frontières.
Entre le 18 et le 19 février, il y a eu une prise des enfants contre rançon dans la région de Mayo-Dala, donc exactement au sud-ouest du Tchad. Or, c'est un phénomène qui date de plusieurs années et a le drame de Matabéré, que tous les Cadiens connaissent d'ailleurs, on a cru que le problème est définitivement réglé. Or, non, à notre grande surprise, on vient d'apprendre qu'il y a encore des enlèvements compréhensibles.
Qui enlève ces enfants?
Difficile de dire qui enlève, parce que ces gens, ils bénéficient de beaucoup de complicité. Ces complicités même pourraient être parmi les autorités. Et on a attiré l'attention du gouvernement central sur cette question afin qu'une enquête sérieuse puisse être menée. Ils ne le font jamais. Et généralement, on essaye de se fier au rapport que ces autorités militaires et administratives envoient. Or, ces gens-là, pas toutes, mais certaines autorités sont véritablement impliquées. Par exemple, vous prenez certaines autorités qui avaient été sanctionnées à son temps. Ils ont suspendu et quelques années plus tard, ils reviennent, ils prennent des fonctions plus hautes que celles qu'ils occupaient avant.
De Zombé, Daniel Passalet, président de droit de l'homme sans frontières, a été joint à N'Djamena par Timothée Donangmaï. En Centrafrique, le président de l'autorité nationale des élections, Dieudonné Komboyaya, a dû monter récemment au créneau pour dire si le nouveau chronogramme des élections, qui a rapproché la date des présidentielles et des législatives prévues à l'origine en juillet et en août, pourra être respecté. On l'écoute.
Dans le souci du respect du calendrier de la transition, le groupe international de contact a modifié l'ordre pour que les deux tours se tiennent en juin et juillet 2015. Il faut cependant souligner que la faisabilité technique et la mise en œuvre du chronogramme remanié, en plus des détails très courts, sont tributaires de la satisfaction à brève échéance d'un certain nombre de préalables et de conditions dont les principaux sont l'opérationnalisation de l'ANE, y compris la mise en place de ses démembrements et de son administration au niveau central.
Dieudonné Komboyaya, président de l'autorité nationale des élections en Centrafrique. Ici aux États-Unis, visite controversée du Premier ministre israélien cette semaine. Benjamin Netanyahu s'adressera demain à une réunion conjointe des deux chambres du Congrès à Washington, organisée par le président de la Chambre des représentants John Boehner, sans concertation préalable avec la Maison-Blanche, Timothée Donangmaï.
La Maison-Blanche n'a pas apprécié l'entorse au protocole et quelques législateurs américains prévoient de boycotter le discours de M. Netanyahu. En Israël même, des voix s'élèvent contre sa visite à Washington, peu avant les élections israéliennes de ce mois-ci. Moshe Rossman est un habitant de Jérusalem. Vous avez des membres du Congrès qui boycottent le Premier ministre d'Israël. Des faits sans précédent qu'il sera difficile d'inverser. C'est bien évidemment une manœuvre électorale qui n'a rien à voir avec la sécurité d'Israël, dit-il. Le chef du gouvernement israélien n'est pas de cet avis. Je crois en la solidité des relations avec les États-Unis et à travers elles, nous surmonterons ces différences, de même que celles à venir. En tant que Premier ministre d'Israël, il est de mon devoir de veiller à la sécurité d'Israël et c'est pourquoi nous sommes fermement opposés à l'accord en cours de discussion entre l'Iran et les puissances, a déclaré M. Netanyahu, ajoutant qu'un tel accord mettrait en danger l'existence même d'Israël.
Et maintenant, la minute économique avec Nathalie Barge.
Le groupe C'est Moi ouvrira en mai sa première chocolaterie à Abidjan, en Côte d'Ivoire, indique Jeune Afrique, citant une déclaration du PDG du chocolatier français Patrick Poirier au Salon international de l'agriculture de Paris. Avant de produire du chocolat, l'usine produira de la poudre de cacao et de la pâte à tartiner pour le marché sous-régional. Selon Hervé Assar, représentant de la Banque mondiale au Togo, l'Afrique est le continent qui réforme le plus en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. C'est ce qu'a déclaré le fonctionnaire international à l'ouverture du forum Africa Best Practices qui s'est tenu à Lomé du 26 au 28 février. Il a rappelé la forte progression du Togo, troisième meilleur réformateur au monde, devant la Côte d'Ivoire et le Sénégal, indique la revue Financial Afrique.
Merci Nathalie Barge. Le secrétaire d'État américain John Kerry a eu des consultations aujourd'hui à Genève avec son homologue Sergei Lavrov. Les discussions ont porté sur le conflit en Ukraine et l'assassinat du leader d'opposition russe Boris Nemtsov. Le chef de la diplomatie américaine exhorte les autorités russes a mené une enquête approfondie sur le meurtre de M. Nemtsov vendredi dernier. Hier à Moscou, des dizaines de milliers de personnes ont participé à une marche en hommage au leader disparu. La plupart des manifestants portaient des drapeaux russes et des pancartes disant « Je n'ai pas peur ». Le libéral Nemtsov était connu pour ses critiques acerbes contre le président russe Vladimir Poutine. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info.